L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses à ficher la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à 20h, donc pour ce Canu Info du jeudi avec Laurent au micro noir.
Bonsoir Delphine.
Que je suis donc avec le micro vert ce soir, le micro écolo et le micro anarchiste, nous allons donc les définir comme ça. Nous allons parler de quelques sujets ce soir, on parlera avec Laurent d'Israël et de Palestine assez longuement. Nous parlerons très rapidement d'une nouvelle affaire avec Anne Frank. Nous parlerons de libre circulation des personnes en Afrique centrale, ce sera avec Laurent. Je vous parlerai de cette enquête du CSA sur la place des femmes dans la publicité télé, comment il y a du sexisme au quotidien. Nous parlerons d'AZF et puis nous parlerons d'investissement des profiteurs dans le cannabis récréatif, parce qu'il faut voir loin et dans le futur et dans l'avenir. Voilà, on parlera d'autres choses si nous avons le temps, mais tout de suite, on va quand même commencer avec la fuite en avant, la Catalogne. Vous avez donc peut-être entendu aujourd'hui que le parquet espagnol a demandé, donc ce jeudi, un mandat d'arrêt européen contre ce président destitué de la Catalogne, monsieur Puigdemont, hein, vous avez peut-être entendu ça. Vous avez peut-être entendu que 8 membres du gouvernement destitué sont placés en détention provisoire. Alors, concernant monsieur Puigdemont, sur cette demande du parquet espagnol, il va falloir évidemment qu'un juge belge examine cette demande. Il y a un délai de 60 jours une fois que tout ça sera arrivé là-bas. Vous avez donc bien entendu que monsieur Puigdemont est en fuite. Pardon. Il a déménagé. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est comme le démontage et la destruction, hein, si vous vous souvenez un petit peu en arrière. Donc, il a déplacé en Belgique. Il a été d'ailleurs accueilli à bras ouverts par des nationalistes flamands d'extrême droite. Hein.
Ouais, des nationalistes, quoi. Mais il est courageux, cet homme-là. Hein, quand il faut se battre, combattre pour des idées, il se barre, lui.
Alors bon, faut dire que il y a un procureur général qui souhaite inculper toute la petite bande pour détournement de fonds publics, sédition et rébellion. Sédition et rébellion, c'est quand même des peines de 15-30 ans de prison. Donc effectivement, ce sont des peines assez lourdes. Alors on rappellera quand même un petit peu qu'il n'y a pas eu de révolution en Catalogne. Il n'y a pas de peuple dans la rue, comme on a parfois pu l'entendre dans des discours d'extrême gauche, de soutien ou chez les nationalistes. Oui, il y a eu des manifestations, mais il n'y a pas eu de révolution.
Et puis des manifs avec pas beaucoup de monde, hein, faut quand même pas délirer. Hein.
Alors,
on n'a pas la 90% de la population qui est dehors pour soutenir le.
À 90%, moi j'appelle ça presque une révolution, tu vois. Oui, c'est-à-dire qu'on y va quand même. Hein. Alors, vous savez ici qu'on est pour l'autodétermination des peuples. À se saisir de leur vie, sauf que nous, l'autodétermination, bah, c'est plutôt un droit à l'autogestion. C'est pas trop le nationalisme sur lequel nous sommes branchés. Vous l'aurez bien compris si vous nous écoutez de temps en temps. Alors, on aurait bien évidemment aimé soutenir ceux et celles qui voulaient s'affranchir de la monarchie, les républicains.
Ouais, ça faisait un peu classe, mais bon, pour construire un État républicain, nous on connaît, on vit dans un État républicain, répressif, raciste, enfin tout ce qu'on veut. C'est pas la gloire non plus. Il faut construire une société sans État. En fait.
Et puis le problème, il est bien là, c'est qu'on a des nationalistes qui reconstruisent une nouvelle nation. On nous a beaucoup parlé de la démocratie pour le peuple catalan. Alors de quel peuple on parle? De quelle démocratie on parle? Nous, c'est des choses qui nous ont beaucoup interrogés. Hein. Tous les deux, on a beaucoup discuté et débattu de tout ça ensemble. mais on s'aperçoit surtout que ça fait des années qu'il y a une indépendance qui est demandée par ces nationalistes, indépendantistes, séparatistes, vous emploierez le vocabulaire que vous souhaitez, et on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui est prévu, que les élites catalanes n'ont rien prévu pour mener à bien cette indépendance qui a donc été proclamée le 25 octobre dernier.
Il a proclamé l'indépendance sans prévoir la future monnaie, alors il se reposait sur l'Europe, sans prévoir de négociations d'adhésion avec l'Europe, puisqu'ils ne sont plus dans l'Europe. La Catalogne, elle n'a jamais signé un truc d'adhésion à l'Europe. Ils n'ont rien prévu sur les frontières, ils n'ont rien prévu sur rien, en fait. En fait, on a l'impression que ce gars, c'est quand même un branque, et que là, dès qu'il y a la première difficulté qui arrive, il se barre à l'étranger, quoi. Enfin, qui fuit sa responsabilité.
Surtout que, je voudrais juste rappeler ce qui s'est passé le 25 octobre dans l'après-midi au Parlement de Catalogne. Il y a donc eu cette résolution qui est adoptée, une motion adoptée par 70 voix pour, 10 voix contre, 2 votes blancs, il y a 135 élus. Vous faites le calcul ? Ça a été, encore une fois, pas tout à fait la démocratie hein, pour ces nationalistes. C'est-à-dire qu'on nous a aussi vendu un référendum qui aurait été extrêmement important pour le oui à l'indépendance. 90% de oui avec une participation à 43%. Les autorités catalanes se sont appuyées sur ce référendum qui, certes, a connu quelques problèmes puisque les autorités espagnoles ont tout fait pour empêcher ce référendum d'exister. Mais enfin, il n'y avait pas de majorité catalane hein, dans ce référendum. 43% de participation, excusez-moi.
Oui, même s'il y avait eu 100% de pour, 43%, ça fait toujours pas la majorité.
Donc la démocratie, on peut encore une fois en discuter. Et puis nous, on s'est posé la question, mais c'est quoi être catalan ? Est-ce que c'est avoir le nom qui sonne bien à la catalane ?
Parler catalan, être catalan depuis 2 générations, c'est...
Est-ce que ça va être des nationalistes extrêmement ouverts qui vont accueillir tous ceux et toutes celles qui ont une adresse, tout simplement, en Catalogne ? Nous, on est sceptiques.
Tu connais des nationalistes ouverts, toi ?
C'est pour ça que je dis que nous étions un petit peu sceptiques. Mais très clairement, en même temps, les nationalistes catalans se sont servis de la bêtise, de l'intransigeance et de l'autoritarisme de M. Rajoy. Hein. Il faut bien dire que derrière, sa tactique, à lui, elle a été quand même plutôt débile. Ça a été déplorable, il faut bien le dire. Ça a créé plus de problèmes qu'autre chose. Il n'a pas été bien malin, hein, quand même, M. Rajoy, il faut le dire. Et puis, nous aussi, ce qu'on a beaucoup regardé, ce sont les médias français qui ont adoré cette indépendance hein, en Catalogne. On nous a beaucoup montré d'images dans les chaînes d'information en continu, par exemple, de ces Catalans en larmes avec leurs drapeaux. On nous a montré une indépendance romantique, ce qui n'est en fait finalement pas vraiment le cas. Mais voilà, on a des médias français qui se sont beaucoup emballés pour cette indépendance. C'était beau, c'était chouette, ces gens qui se prenaient dans les bras, qui pleuraient. Mais c'était pas une révolution, il n'y a pas eu de grève générale. Ça aussi, ça nous a marqué en Catalogne. Il y a bien eu des tentatives, mais déjà, il faut bien dire que du côté de certains syndicats, vous savez qu'il y a une belle CNT en Espagne, en Catalogne, ça a posé problème parce que suivre le mouvement des nationalistes, c'était quand même suivre aussi la droite hein, qui voulait se séparer de l'Espagne pour des raisons aussi économiques. Et ça, la grève générale n'a pas pris parce qu'elle tombait aussi au mauvais moment et ça n'a pas marché. Et donc aujourd'hui, finalement, la vie, elle continue et on a même ces fonctionnaires qui, finalement, ne se sont pas mis en grève, continuent à faire leur boulot. Plus ou moins de zèle, hein, vous allez me dire, mais en tout cas, on se retrouve pas face à un grand mouvement de résistance avec une belle révolution en Catalogne, ce n'est pas le cas. C'est un sacré bazar, hein, et j'emploie ce mot pour être tout à fait poli à l'antenne. Monsieur Puigdemont n'est plus là, il s'est barré, il a tout laissé en plan. Donc on attend maintenant effectivement ces élections du 21 décembre prochain.
Bah oui, qui parce que là, crucial. Effectivement, si 80% ou 90% des électeurs avec, enfin, qui se mobilisent et votent pour les partis indépendantistes, ça sera un vrai signal qu'il y a une volonté d'indépendance. C'est jamais arrivé dans les élections. Hein. La dernière fois, les indépendantistes, ils avaient, c'est leur plus gros score, et ils n'avaient pas 50% des voix. Hein. Ils étaient moins. D'ailleurs, ils étaient obligés de s'allier avec un parti d'extrême gauche faire passer des lois. Donc en fait, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais été majoritaires, les indépendantistes. Là, ils rêvent, et l'Espagne a tout fait pour que leur score augmente, il faut quand même le dire, avec la politique répressive. Même là, c'était répressif avec les flics, avec tout le monde, mais là, c'est répressif avec la justice. Ils font exprès, ils les arrêtent, ils lancent un mandat d'arrêt européen, ils tendent le bâton pour se faire battre, le gouvernement espagnol, pour développer la résistance. résistance. Il serait cool, il serait conciliant, il se poserait juste des questions sur, ben voilà, on fait les élections et ça aura une forme de référendum. Et on n'est pas sûr que la majorité des Catalans aient envie de sortir de l'Espagne, de l'Europe, de tout ce que ça signifie. Hein, parce que c'est à mettre en œuvre, après c'est compliqué. Hein, il faut redémarrer un système économique complet. Fin...
Alors d'ailleurs, on notera qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont quitté la Catalogne. On se demande bien pourquoi. Oui, ah si, c'est une raison tout à fait politique. Parce oui. qu'économiquement, il n'y avait pas de raison de s'en aller et de quitter la Catalogne. Donc là, il y a une réponse tout à fait politique de répression finalement économique hein, sur la Catalogne. Ce que moi, je rajouterais un petit peu, c'est que donc, M. Puigdemont n'a pas souhaité répondre à la convocation du juge en Espagne, puisqu'il paraît que c'est un procès politique. Ah bah oui, c'est un procès politique. À quoi il s'attend? Je veux dire, c'est un peu con d'aller dire ça.
Justement,
excusez-moi.
L'idée d'un procès politique, là, pour lui, c'est une démocratie quand même. Ils ne vont pas le torturer, ils ne vont pas l'assassiner. Hein. Ils le mettront peut-être en prison, ce qui sera triste, mais il deviendra un martyr en prison. Et c'est le seul truc qui peut faire avancer la cause, c'est qu'il aurait pu aller jusqu'au bout, dire, regardez, c'est un régime répressif, on me met en prison et tout. Lui, il se barre. Donc il a tout fait pour casser le mouvement, mais dès le départ, hein, il est mauvais. Dès le départ, je pense que ce gars, il avance, il a rien préparé quand même. Enfin, je veux dire, les Anglais, quand ils sortent, ils font le Brexit, ils négocient 2 ans là avec l'Europe pour essayer d'en sortir, pour parler de la complexité des choses. Quand on sort d'un système où une partie des lois, une partie des règles sont faites par les autres. Là, eux, lui, il a rien préparé du tout. En fait, il a fait tout ça pour se mettre en avant. Il y croyait pas du tout que ça irait jusque là. Et on a vu son premier discours là où c'était, il a parlé pendant 3 quarts d'heure, c'était incompréhensible. Ce qu'il a voulu dire, on n'a rien compris si c'était, il déclarait l'indépendance ou pas et personne n'a rien compris. En fait, voilà, ils ont choisi un branque, c'est nationaliste. Et bon, bah voilà. Alors,
maintenant, moi, je dirais que
on
c'est
plutôt une situation compliquée.
La marionnette d'une coalition, qui n'a pas fonctionné. À preuve. Et puis, pour terminer, si tu veux bien, avant que nous entamions une partie sur Israël et la Palestine, je ferai juste une petite remarque, on va trouver déplacé, mais Monsieur Puigdemont, il a, je vous rappelle, quitté donc la Catalogne, il a été jusqu'en France, a priori à Marseille, il a pris un avion pour aller en Belgique, et tout ça, il l'a fait avec une carte ou un passeport espagnol.
Bah oui.
Pas du tout catalan. Donc son exil en Belgique, ça risque de pas bien marcher. Je pense que pour l'instant, il attend de voir avec son avocat comment tout ça va se passer.
Bon, alors, autre actualité, puisqu'aujourd'hui, on est le 2 novembre. Et le 2 novembre 2017, il y avait la déclaration de Balfour qui a foutu le ouaï en Palestine, on peut le dire. Donc on va revenir un petit peu dessus, des événements qui en découlent. Puisque 100 ans après, on est toujours dans une situation qui découle en partie, mais en partie seulement, hein, de la déclaration de Balfour. Donc c'était le 2 novembre 2017. C'est monsieur Arthur Balfour, Lord Balfour, parce qu'il était Lord, qui était ministre britannique des Affaires étrangères, qui fait sa déclaration, cette fameuse lettre qui deviendra la déclaration Balfour, lettre qu'il adresse à Lionel Walter Rothschild, qui représente le mouvement sioniste international.
Est-ce que tu peux juste nous en dire la date? Parce que tu nous as dit...
Le 2 novembre 17.
D'accord.
1917.
Tu nous as dit 2017, c'est pour
oui,
ça.
Oui, mais donc, voilà. 2017, c'est il y a 100 ans.
Ok, donc on fait qu'on soit bien d'accord.
Donc, et dans cette lettre, il dit, entre autres, le gouvernement de Sa Majesté, il parle au nom de l'Angleterre, envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. C'est la première étape un peu de l'idée de la réinstallation et de la création d'un État juif en Palestine. 5 ans plus tard, la SDN, la Société des Nations, va mettre en place le système des mandats sur les pays du Proche-Orient, enfin du Moyen-Orient plutôt. Suite à l'écroulement et au démembrement de l'Empire ottoman, donc voilà, il y a une résolution hein, qui est celle du 24 juillet 1922 qui donne aux Britanniques, qui partage en fait la région entre les Britanniques et les Français. Et la SDN, la Société des Nations, donc l'ancêtre de l'ONU, va reprendre intégralement le texte de la déclaration de Balfour, texte qui exclut les Palestiniens, les habitants de la Palestine, qui n'existent quasiment pas dans cette déclaration. Et donc ça va mettre en œuvre le processus de dépossession des Palestiniens de leurs terres et l'accaparement par le mouvement sioniste représenté donc par entre autres Walter Rothschild et par ce qui s'appelait le mouvement sioniste international. Donc ça fait 100 ans que ça continue et c'est basé sur cette première mise en forme en fait de l'idée de réimplanter des Juifs en Palestine. Alors, c'est ce triste anniversaire, je vais compléter un petit peu après, mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que 100 ans après, les Israéliens font la fête et les Palestiniens font la gueule, hein, parce qu'on peut quand même le dire. Ceux qui souffrent, c'est les Palestiniens. Alors, les Israéliens ont souffert aussi pour différentes raisons, mais ils en sont en grande partie responsables de leur souffrance. Les Palestiniens, ils n'avaient rien demandé à personne. Hein. Eux, ils habitaient là depuis des centaines, voire des milliers d'années. Ils n'avaient rien demandé. Hein. Alors, ça a entraîné aujourd'hui des manifestations, donc notamment à Ramallah, qui est la capitale de ce qui est la partie palestinienne du peu de territoire en Cisjordanie sur lequel l'autorité palestinienne a une autorité, justement. Donc voilà, ils ont marché jusqu'à une représentation britannique avec des drapeaux, des banderoles hostiles à la déclaration de Balfour. Il y a eu aussi mobilisation dans la bande de Gaza, forcément. Puisque là aussi les Palestiniens se sentent concernés par cette déclaration de Balfour. On rappelle quand même que ce qu'a entraîné la déclaration de Balfour, la création de l'État d'Israël, c'est l'expulsion de 750 000 habitants de leur maison, hein, qui ont été expulsés du nouvel État créé, et des milliers de morts, etc., des villages détruits, voilà, et du coup 70 ans de conflit, hein, parce que on en est toujours là aujourd'hui. Il y a eu aussi une manifestation devant une autre partie occupée illégalement par Israël, c'est Jérusalem-Est. Là, il y a eu une manifestation devant le consulat britannique. C'est pareil, pour voilà, demander qu'il y ait enfin une résolution et qu'on ne commémore pas cette déclaration de Balfour comme le fait l'État israélien. Alors justement, pour revenir et pour compléter ce que je viens de dire, parce que pourquoi il se mobilise autant, d'accord, ça, il a lancé un petit peu la donne Balfour, mais je suis pas sûr qu'il ait... j'imagine deux écoles. J'étais pas là à cette époque-là. J'étais pas né, bien évidemment. Mais est-ce qu'il l'a fait volontairement ou est-ce qu'il l'a fait par méconnaissance ? C'est toute la question qui s'est posée. Puisque, pour reprendre les mots qu'il va utiliser dans sa déclaration, les Arabes, il les appelle des collectivités non juives. Il appelle jamais des Palestiniens, des Arabes, les habitants de cette terre, de la Cisjordanie. Non, il utilise le nom de collectivité non juive. C'est-à-dire qu'il fait croire que il y a que quelques collectivités de non juifs dans cette terre qui doit être juive. Or, en fait, à l'époque, 7% de la population palestinienne, alors, on utilise le mot Palestine, c'est un peu abusé, la Palestine n'existait pas à l'époque, mais dans ce territoire qui était occupé et dirigé par les Britanniques et au-dessus par la France au Liban, les juifs représentent 7% de la population. 93% de la population, ce sont les Palestiniens d'origine qui sont là, hein, depuis moult temps, ou qui ont bougé, parce que bon, il y a quand même aussi pas mal d'habitants de la région qui sont pas sédentarisés. Hein. Faut se rappeler qu'il y a pas mal de Bédouins dans cette région aussi. Donc voilà ce qu'il y a dans cette déclaration de Balfour, qui va donc lancer l'idée de création d'un État israélien. Alors, ça va être psychologiquement très important, puisque la diaspora, les juifs qui sont partout dans le monde, vont avoir l'idée d'émigrer, parce qu'ils étaient que 7%, ils n'étaient pas super motivés, les juifs, pour aller en Palestine, que fonder un État. Hein, c'était pas du tout dans leur esprit. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça sur place. Mais cette déclaration de Balfour va lancer cette idée. Et puis il faut quand même rappeler que c'est l'antisémitisme, et notamment les pogroms qui sont pratiqués en Russie, en Europe de l'Est, qui vont motiver une partie des juifs à fuir les gens qui les massacrent.
Hein, et c'est une question de survie.
Et voilà. Et c'est bien l'antisémitisme, et notamment ces pogroms, hein, notamment à l'Est, dans l'Est de l'Europe et en Russie, qui va pousser donc la création d'un mouvement sioniste, porté entre autres par Theodor Herzl, pour dire, ben voilà, on nous massacre, on nous tue de partout, on va peut-être se trouver un endroit pour fonder un État. On rappelle d'ailleurs qu'ils ont pas mal cherché en Afrique aussi, hein, avant d'aller en Palestine se créer cet État d'Israël. Bon, après, dans l'histoire, voilà, les Français et les Britanniques vont se partager le Moyen-Orient. Va arriver la catastrophe de l'Holocauste. Donc, les Européens vont se sentir responsables du massacre des Juifs par les nazis et leurs amis qui ont collaboré. Il y en avait dans tous les pays européens. Et tout ça va faire que les Nations Unies, en 1948, vont décider la création de l'État d'Israël, qui découle donc finalement de deux choses, de cette déclaration de Balfour que rejette et que condamne aujourd'hui les descendants de ces Palestiniens historiques, et ils ont bien raison naturellement, et bien sûr le racisme, c'est-à-dire l'antisémitisme qui est présent en Europe et en Russie, qui est la deuxième cause de la création de l'État d'Israël. Et il faut le rappeler quand même, c'est pas simplement la déclaration de Balfour qui va faire que d'un seul coup les Juifs vont émigrer là-bas et vont décider de virer les habitants et de construire leur propre pays. Ils auront aussi quelque part finalement pas tant le choix que ça, puisqu'on a quand même pas mal laissé l'antisémitisme se développer. Je dis on pour parler des pays européens. Voilà. Alors après, il faut savoir aussi que les Palestiniens, ils ont une énorme part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Le fait qu'ils aient été divisés tout le temps, donc notamment avec les pays arabes autour qui ont chacun joué leur jeu à eux et pas le jeu collectif palestinien. Voilà, tout ça a fait qu'aujourd'hui, on est dans 100 ans après, on est dans une situation catastrophique. Alors, faut noter quand même que Roderic Balfour, qui est l'arrière-petit-neveu de Lord Balfour, s'est exprimé. Il a dit qu'il regrettait, c'est plutôt sympa, la mise en œuvre déséquilibrée du texte de son aïeul au détriment des Palestiniens. Alors bon, ça ne sert pas à grand chose de regretter, mais symboliquement c'est important qu'un descendant de Balfour dise que d'après lui, il ne pensait pas qu'ils allaient massacrer et virer les Palestiniens, en fait. Qu'il y aurait les deux qui cohabiteraient. C'est ce qu'il laisse entendre, et il n'avait pas imaginé les 70 ans de conflit, et qui sont loin d'être résolus d'ailleurs. Alors, suite à ça, Theresa May, donc, qui est la première ministre britannique de droite, a reçu aujourd'hui son homologue, Benjamin Netanyahou, pour fêter ses 100 ans de la déclaration de Balfour. Donc c'est pas terrible quand même de fêter ce truc-là alors que la situation elle est tendue, elle est compliquée. Donc ce matin elle s'est entretenue avec M. Netanyahou. Ce soir il y a un repas elle a déclaré officiellement qu'elle était fière que la Grande-Bretagne ait joué un rôle pionnier dans la création de l'État d'Israël. Elle fout tout le bordel dans la région, quoi. En gros, elle est fière de ça. Bon, elle est de droite, on comprend aussi ses propos. C'est quand même très très triste qu'elle dise ça, même si elle relativise en disant qu'elle est pour la création d'un État palestinien à côté d'un État israélien. Bon, elle est quand même dans l'adoration de Lord Balfour et de ce qui s'est passé par la suite avec la tragédie qu'est la création de l'État d'Israël pour les Palestiniens. Il s'appelle la Nakba, où effectivement 750 000 expulsés de leur maison, dont les descendants vivent toujours dans des camps en Cisjordanie, il y a quelques-uns en Cisjordanie, à Bethléem notamment, mais aussi au Liban, en Jordanie, etc. On notera que Jérémy Corbyn, donc le chef du parti d'opposition de gauche, le travailliste, Labour, il va pas participer ce soir au repas. Alors lui, il s'est fait pas mal traiter d'antisémite suite à différents commentaires sur le conflit israélo-palestinien. Alors bon, je vais pas le défendre non plus. J'ai espoir qu'il s'était mal exprimé à l'époque sur ce conflit-là. En tout cas, elle a rappelé un truc important, et ça va enchaîner avec la suite des informations, c'est que il faut pas utiliser la question israélo-palestinienne, et notamment l'occupation israélienne, pour développer un antisémitisme. Et quand elle dit ça, Theresa May, elle a bien raison. Sauf que elle le dit à Netanyahou, qui, lui, pour continuer de le citer, a dit « Les Palestiniens disent que la déclaration de Balfour a été une tragédie. » Non, ce n'est pas une tragédie. Bon, voilà. Il dit, ce qui est tragique, c'est leur refus de l'accepter 100 ans plus tard. Donc il faudrait que les Palestiniens acceptent la déclaration de Balfour, dans laquelle Lord Balfour dit que les Palestiniens, ils sont presque rien dans le coin. Non, enfin, ils étaient là, ils étaient majoritaires, c'était nombreux, c'était leur pays, quoi. Donc lui, il veut qu'on réécrive l'histoire. Donc elle a rien condamné, elle est dans la collaboration avec l'occupant israélien. Il faut condamner la colonisation au nom de la colonie. Ça pourrait être un État laïque hein, qui colonise. Ça serait pas un problème. Ça serait, on attaquerait de la même manière. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. Et justement, à cause de ce conflit non résolu, toutes les formes d'antisémitisme sont toujours présentes dans le monde. On a par exemple l'ayatollah Ali Khamenei, donc le chef suprême religieux de l'Iran, qui a encore eu son petit discours antisémite sur la destruction de l'État d'Israël, puisqu'il a recommandé à tous les musulmans de s'engager dans différentes méthodes de combat contre Israël. Quand il dit contre Israël, c'est pour détruire l'État d'Israël, bien évidemment, et pas pour obliger Israël à arrêter de coloniser la Cisjordanie et la Palestine. Il s'est exprimé devant l'Union internationale des érudits de la résistance, donc c'est un groupe qui est dirigé par un Libanais, le Cheikh Maher Hamoud, qui prône l'union des sunnites et des chiites contre Israël. Donc c'est vrai que pour l'instant Israël, ils ont toujours eu de la chance que les sunnites et les chiites se battent entre eux, ça fait déjà moins de gens directement contre eux, mais voilà, ils ont la volonté de détruire l'État d'Israël, hein. Ils soutiennent le Hezbollah, des choses comme ça. Et l'antisémitisme, on dit, bon voilà, ça existe encore dans cette région du monde, l'Iran c'est quand même le pays le plus antisémite du monde, mais on se rend compte que en fait, en France, ça existe toujours. Et on a cette nuit la stèle posée à Bagneux en hommage à la mémoire de Ilan Halimi. Donc c'est ce jeune juif qui a été torturé et tué en 2006 par ce qu'on a appelé le gang des Bar-Gabbar, qui a été une nouvelle fois dégradé.
Qui a été torturé parce qu'il était juif. Hein,
parce qu'il était juif. Donc c'est une plaque qui est disposée dans le parc communal qui a été découverte donc le matin du 1er novembre par un couple de promeneurs avec des belles insultes antisémites néo-nazis hein, puisqu'il y avait une croix gammée, le slogan Libérer Fofana. Alors Fofana hein, c'est le leader de ce fameux gang des barbares. Le tortureur en chef, on va dire. Et puis il y avait Hitler aussi écrit dessus. Enfin voilà, cet antisémite est toujours très présent. Et on rappelle effectivement que ce jeune juif, Ilan Halimi, il a été enlevé en fait par le gang des barbares parce qu'il était juif, non pas pour le tuer au départ, mais pour demander une rançon parce que dans cet antisémitisme qui circule encore, c'est tous les juifs sont riches. Voilà. Donc, ce qui est bien évidemment faux, hein, je vous invite.
Puis il n'y a même plus à le dire. Enfin, on est bien au courant, mais malheureusement.
C'est encore des thèses qu'on retrouve dans les mouvements qui, notamment, sont très présents dans les banlieues. Et effectivement, c'est à cause de ça, comme il est juif, il est riche, on l'enlève, bon après ça dégénère, il le torture, il le tue. Donc voilà, l'antisémitisme est encore bien présent. Et alors, il y a deuxième affaire en ce moment, où l'antisémitisme est remonté de plein fouet, c'est l'affaire Tariq Ramadan. Donc Tariq Ramadan, islamologue très aimé hein, de la gauche et de l'extrême gauche, qui est poursuivi par deux affaires en justice, puisque deux plaintes ont été déposées par deux femmes pour agression sexuelle. Et notamment Enda Ayari, alors qui a droit à des commentaires et sur son Facebook et sur différents sites qui sont injurieux.
C'est de la haine.
Alors,
c'est de la haine.
Il y a des commentaires classiques du style si elle s'est fait violer, c'est qu'elle l'a cherché. Hein. Alors par exemple, on peut lire en islam, comme on le sait tous, il est interdit de s'isoler avec un homme, même s'il est proche de la famille. Donc si elle a accepté.
Oui, ce que rappelons l'affaire, c'est qu'à un moment, il lui a proposé, enfin, ils devaient se rencontrer. Elle s'est retrouvée dans une situation où il l'a mis dans un endroit isolé, dans un hôtel avec une chambre, et qu'elle n'aurait jamais dû accepter. Donc, c'est sa faute.
Voilà, c'est ça. C'est comme la fille qui se balade en mini-jupe. Elle l'a
c'est sa faute.
C'est exactement la même chose.
Exactement.
Voilà. Alors, on trouve ça sur différents sites fréquentés par les musulmans en France, notamment Ouma. Alors, il faut savoir qu'Ouma, c'est le seul qui a parlé de l'affaire. Parce que dans les autres, on parle surtout pas de l'affaire Tariq Ramadan. Hein. C'est un gourou, faut le protéger, tout ça. Alors bien sûr, il l'accuse d'avoir fait ça pour vendre son livre, hein, parce qu'elle a sorti un livre l'automne dernier sur justement un peu ce qui lui est arrivé. C'est une ancienne salafiste.
Oui, elle est devenue laïque. Ouais. Voilà, donc c'est une femme aussi qui raconte qu'elle s'est libérée, tout simplement.
Alors ça commence comme ça, les petites insultes sexistes classiques, et puis très vite, il y a des commentaires qui disent combien on l'a payé pour faire ça, pour mentir. Alors on se dit, bon tiens, il y a un complot, tout ça, on vire dans le complotisme, parce que les théories qui sont pas mal véhiculées sur Ouma dans les commentaires, c'est qu'effectivement il y a un complot contre Tariq Ramadan, contre l'islam, qui est porté par les sionistes, c'est-à-dire les juifs. On s'imagine bien.
Oui, parce qu'elle a un avocat qui a un nom qui sonne comme chez les juifs, donc c'est la preuve.
Oui,
moi, je l'ai lu,
c'est
ça.
Le deuxième indice, puisqu'il s'appelle Jonas Haddad, il est membre d'un groupe d'avocats.
Pardon, mais excusez-moi, mais
voilà, le bureau, c'est dingue. Son cabinet d'avocats s'appelle Haddad Toati Alouche. Donc effectivement, là t'as des commentaires du style « à quand la bar mitzvah ?» Enfin des choses comme ça, laissant entendre, voilà, c'est un complot juif, un complot juif contre Tariq Ramadan. Non, c'est juste un... Il y a des chances que ça soit juste un connard sexiste, violeur, agresseur, et que, voilà, alors c'est problématique pour eux, parce qu'ils l'avaient porté au nu, c'était leur idole, mais en fait, bon, nous ça n'a jamais été notre idole, hein, puisqu'il est... Il est très réactionnaire, très homophobe, anti-égalité, enfin anti-égalité homme-femme, ça c'est sûr. Voilà. Bon, je vous détaille pas tout ce qu'on peut lire en commentaire, mais c'est vraiment très haineux et très antisémite, il faut quand même le dire. On rappelle d'ailleurs que dans les propos antisémites, là c'est sur Ouma, il y a un site que je connaissais pas qui s'appelle l'Union française des consommateurs musulmans. Alors là c'est pareil, hein, là c'est des propos de haine incroyables parce que c'est une femme, donc ils sont ultra sexistes et parce que ça serait porté par les juifs. Hein, on a des commentaires du style « Je suis une pute sioniste hein, ». Ils l'ont mis sur son Facebook, enfin, des trucs pas mal. On leur rappellera quand même qu'il y a ces sites, là, l'Union française des consommateurs musulmans, Ouma, mais il y a aussi Égalité et Réconciliation, et qui a beaucoup fait pour développer l'antisémitisme dans les banlieues, et notamment chez les jeunes musulmans, avec les discours traditionnels. Regardez, les médias sont dominés par les juifs. On rappelle qu'en France, c'est pas vrai. En France, sûrement nulle part, mais en France, on connaît bien, c'est Bouygues, hein, et c'est Dassault, hein, ils sont pas juifs, et c'est eux qui ont les plus gros médias en France. Enfin voilà, il y a tout ça qui est porté par Dieudonné, Soral et toute la bande à Égalité et Réconciliation, qui a fait beaucoup de mal hein, en instrumentalisant notamment le conflit israélo-palestinien, et qui fait qu'aujourd'hui l'antisémitisme a une place énorme encore en Europe, alors qu'on pensait quand même après 45 que ça allait disparaître. Et puis pour terminer avec l'antisémitisme, il y a le procès de l'antisémitisme qui avait lieu aujourd'hui. Abdelkader Merah, le frère du Merah qui a assassiné des militaires et des enfants juifs, a été condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, ainsi que Feta Malki, qui lui, a priori, était beaucoup moins dans la propagande, mais qui a vendu les armes, qui a pris 14 ans de prison. Voilà, l'antisémitisme tue encore, même en France, hein, on rappelle ce que Merah, il a quand même pas mal assassiné.
Alors on va parler maintenant pas tant d'antisémitisme mais de bêtises ou d'ignorance. J'avoue que je sais pas bien comment il faut prendre cette affaire. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, je vais juste rappeler Anne Frank. C'était une adolescente qui s'est cachée avec sa famille pendant le nazisme à l'arrière d'une maison. Elle a été déportée au camp de Bergen-Belsen, elle y est morte.
En 44, ils l'ont arrêtée très...
Ouais, mais enfin, elle a été déportée en 44, ouais. Elle y est morte en 45, voilà, elle avait 15 ans.
Très tard, elle a failli échapper.
Ouais, quelques mois avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, nous connaissons Anne Frank aussi, parce que nous avons, j'espère tous et toutes, lu son journal intime, qui a été publié par son père, survivant du camp. Si vous ne l'avez jamais lu, eh ben, peut-être qu'il faut vous y mettre. Quel que soit notre âge, il est important de lire cet ouvrage. Donc, pour les plus jeunes, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Donc, pourquoi je vous parle d'Anne Frank ?
Parce qu'en ce moment, elle est pas mal réutilisée. Et pas toujours à bon escient.
Alors, oui, on peut dire tout de suite, c'était la fin de mon propos, mais on peut le dire tout de suite. On a eu la panoplie de costumes pour Halloween avec les vêtements imaginés Anne Frank. Bon.
C'est pas terrible. C'est vrai que pour Halloween, ça fait peur un peu, mais bon, c'était quand même pas
terrible. Mais bon, enfin, je veux dire, on avait déjà eu hein, les uniformes des camps en vente pour Halloween. Enfin, bon, les gens, ils pètent des câbles quand même dans le profit capitaliste. Et puis, on a eu les supporters du club de foot de Rome hein, qui ont utilisé l'image d'Anne Frank. Enfin, c'est des antisémites, des racistes. Voilà, je n'ai même pas envie d'en parler davantage de ces gens-là. Toujours est-il qu'à côté de ça, la Deutschbahn, la SNCF allemande, a lancé un grand appel pour donner des noms à ces trains à grande vitesse. Alors là, vous me dites, c'est quoi, Delphine, le rapport ? Alors déjà, pourquoi donner des noms à des trains. Ouais. Donc il y a eu un jury qui a reçu 19 000 propositions, paraît-il, et qui a sélectionné 25 noms de personnalités qui ont marqué l'histoire allemande. Moi j'ai retenu Hans et Sophie Scholl, des résistants, que vous connaissez certainement. Et une des idées, c'était de donner le nom d'Anne Frank à un train. Et alors là, il y a des gens qui n'ont pas percuté. Nazi, train, camp, ouais, Anne Frank, juif. Je reprends, nazi, train, camp, Anne Frank, juif.
C'est quand même l'ancêtre de la Deutsche Bahn, enfin la Deutsche Bahn de l'époque, qui a déporté, enfin qui a permis la déportation des juifs quand même.
Et alors que c'est pas marqué des gens, ouais, c'est quand même hallucinant. Et là pour moi c'est de la bêtise, c'est de l'ignorance, c'est pas forcément de l'antisémitisme,
oui, parce que,
ou une volonté.
Il n'y a pas d'antisémitisme.
Politique. C'est comment est-ce que même le jury a pu retenir le nom d'Anne Frank. Alors je vous dis pas, la fondation Anne Frank, qui s'en sont étranglés, les pauvres. C'est une catastrophe d'avoir de telles idées. C'est quand même un moment oublier un petit peu l'histoire. Voilà, il n'y a rien d'autre à en dire. Franchement, la bêtise et l'ignorance, des fois, ça nous emmène bien loin.
On va aller un petit peu en Afrique pour une petite info sur la CEMAC. Donc la CEMAC, c'est la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Ça concerne 6 pays. Et mardi, il s'est passé un truc que les centrafricains, on va dire, les Africains qui habitent dans cette partie d'Afrique, hein, donc dans ces 6 pays-là, attendaient, a priori depuis un moment. C'est la ratification par tous les membres de l'accord qui date de 2013. Donc ça fait un petit temps, hein, 4 ans, sur la libre circulation des personnes dans cette partie du monde. Donc une négociation, donc une ratification qui fait suite à une quinzaine d'années de négociations. Voilà, ils étaient réunis en sommet extraordinaire à N'Djamena. Donc voilà, bon, du coup là, ils autorisent la Banque de développement des États d'Afrique centrale à débloquer pas mal d'argent, 1,7 milliard de francs, pour accompagner l'application de la libre circulation, notamment dans les papiers. L'idée, c'est de faire comme en Europe, d'avoir une zone dans ces pays d'Afrique. Donc les 6 pays, c'est Cameroun, Centrafrique, Congo, Brazzaville, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad, dans lequel les habitants aient le droit d'aller dans les pays d'à côté, sans demande de visa, etc. Comme aujourd'hui, on a la libre circulation des personnes en Europe. Donc c'est un progrès, hein, on va dire, pour nous qui voulons l'abolition des frontières, c'est vraiment un progrès important. Alors, ça a été bloqué pendant des années. 1972, les premières idées qui étaient portées par l'ancêtre de la CEMAC, de cette fameuse communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, il a fallu attendre donc là 2017 pour qu'on passe à l'étape supérieure. Donc c'est plutôt un progrès qui a mis vraiment du temps. Alors on notera que c'est comme en Europe, hein, c'est avant tout des raisons économiques qui ont motivé la libre circulation des personnes, hein, parce que il y a un marché important, un 30 millions de consommateurs, dont une grande partie vit dans la pauvreté d'ailleurs. Ils sont tous sous le franc CFA, donc ils ont une monnaie pourrie mais commune. Donc il y a un intérêt économique à cette libre circulation des personnes. Nous, on va se placer du côté humain en disant, ben voilà, ces gens-là, ils pourront aller d'un pays à l'autre. En plus, on rappelle, hein, que le découpage des pays en Afrique issu de la décolonisation et de la colonisation respecte pas toujours les familles, les ethnies, les tribus, tout ce qui a pu exister avant que les Occidentaux viennent occuper ce pays. Enfin, ces régions-là, enfin, on va dire. Donc voilà, donc une bonne nouvelle quand même à prendre pour les Centrafricains qui vont pouvoir donc se balader dans ces 6 pays. Alors en échange de ça, ils vont peut-être faire des papiers biométriques qui seront identiques pour tous les habitants des 6 pays, qui leur permettront de circuler. Il faut savoir que ça a été quand même bloqué par 2 pays au départ. Qui avaient peur que tout le monde vienne chez eux parce qu'ils ont du pétrole. C'était la Guinée équatoriale et le Gabon qui ont beaucoup bloqué à cause de ça, parce qu'ils sont, c'est des pays qui sont peu peuplés mais un peu plus riches que les autres. Donc eux, ils ont dit non, on veut pas d'immigration. Donc vraisemblablement là, ils ont fait un effort et on va vers une société un petit peu plus ouverte dans cette région d'Afrique centrale.
Alors on va parler de toute autre chose maintenant, puisqu'on va parler de ce sexisme au quotidien avec cette enquête, cette étude, ce rapport du CSA sur la place des femmes dans la publicité télé. Alors ça tombe bien avec toutes ces affaires sur des agressions et des viols sur les femmes. La parole se libère enfin, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans cette émission, mais on se rend compte pour une partie de la population que ça touche toutes les femmes. Hein. C'est marrant. Moi, je pourrais vous faire un canu info en entier, rien que sur mon expérience, et sans pour autant vous parler de viol, c'est-à-dire quelque chose de très très grave. C'est parce qu'en fait, depuis qu'on est toute petite, on vit avec cette idée quand même. Il faut se rappeler qu'à l'école, ça commence déjà, hein, les attouchements, puisque vous, là, les filles qui m'écoutez, les femmes, combien de fois quand vous étiez gamine, on vous a fait poète-poète sur le bout des seins, hein, mais il paraît qu'à l'époque, quand on est enfant, on découvre notre corps, et donc il y a du laisser-faire. Mais c'est quand même bien déjà à ce moment-là que ça commence et ça continue. Alors évidemment, c'est des propos qui, pour l'instant, touche d'abord le spectacle, l'art, le cinéma, la télé aussi en France avec les dernières affaires, mais j'espère bien que la parole se libère aussi dans les entreprises. Et pour nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une lutte qui va se faire en mixité, c'est-à-dire avec les femmes et les hommes, parce que c'est bien en changeant la société ensemble que nous allons arrêter de faire en sorte que des hommes puissent agresser, violenter, discriminer, humilier des femmes. Et ça ira dans ce sens. Et d'ailleurs, j'irai même jusqu'à dire que tout le monde va pouvoir être mieux dans cette situation, puisqu'on apprend que, par exemple, Kevin Spacey a agressé des hommes. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des hommes qui sont prêts à agresser des hommes et des femmes parce qu'ils se sentent dominants et que c'est bien ça sur lequel il va falloir se battre tous et toutes ensemble. Voilà, je voulais juste dire ça avant de commencer mon petit sujet sur le CSA. Alors c'est pas un rapport révolutionnaire, nous savons bien que la publicité est sexiste. Voilà, ouais. Ça c'est fait, on peut donc changer de sujet, tu vas me dire.
Oui, c'est ça.
Bon, malgré tout, cette étude, elle est intéressante. C'est une étude qui a été faite sur l'écran publicitaire juste avant le 20h, sur 24 chaînes, d'octobre 2016 à avril 2017. 2055 publicités ont été visionnées sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soirs différents. Pour dire, c'était pas lié à une soirée précise, avec un programme précis par rapport à une période de l'année précise. À chaque fois, il y avait des questions pour se demander si ces publicités étaient sexistes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, oui, elles sont sexistes. Il y a toujours une prédominance des hommes dans la répartition des voix hors champ dans la publicité, par exemple. Et puis, il y a toujours plus d'hommes sur certains secteurs, évidemment. Mais par exemple, la petite voix qui vous parle, c'est souvent plus un homme qu'une femme. Et ensuite, après, je vais pas vous étonner si je vous dis que c'est selon un petit peu le sujet. C'est-à-dire que pour vendre une voiture,
il faut un homme.
Il faut un homme. Même si les femmes conduisent, hein, dans notre pays aujourd'hui, et achètent même des bagnoles, rendez-vous compte, c'est plutôt des hommes. Par contre, quand il va s'agir de l'entretien du corps, ce sont des femmes, alors que pourtant il semblerait que les hommes se lavent aussi, et parfois avec les mêmes produits, rendez-vous compte aussi. On sait que dans l'habillement parfumerie, excusez-moi, ce sont plutôt des femmes, dans les loisirs aussi, dans tout ce qui est produits médicaux et paramédicaux aussi, ça va être, par exemple, pour vendre de l'homéopathie, quand on vous met plutôt des femmes. Par contre, ce qui va concerner les assurances, les banques, les mutuelles, là, ce sont des hommes, et tout ce qui est technologie et numérique, ce sont aussi des hommes. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a toujours cette publicité qui est vraiment genrée, hein. Il y a à dire qu'on met même du sexe, hein, sur ces publicités. Il faut que ça soit tout à fait clair pour qu'on puisse bien comprendre tout ça. Et donc on s'aperçoit que c'est quand même en décalage social, puisque les femmes achètent des voitures, que les hommes mettent du savon, que pour les loisirs, bah, c'est assez partagé, et que les femmes prennent des assurances, ont des services bancaires et des mutuelles.
Hein, nous sommes bien. Voir du téléphone portable.
D'accord. Ouais, je vais pas faire toute la liste, mais nous sommes bien d'accord là-dessus. Et donc, même pour, ce qui est intéressant après, c'est sur les rôles d'experts. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui va vous expliquer, soit avec une blouse un peu importante, soit quelqu'un qui est là pour vous expliquer quelque chose un peu sérieux, eh ben, c'est quand même les hommes qui sont là à 82% des experts. C'est-à-dire que les femmes, finalement, c'est bien connu, elles y savent rien. Elles ont pas été faire des études secondaires, elles vont pas à l'école. Donc, comment les femmes pourraient donc nous expliquer des choses? Il nous faut des hommes, il nous faut du sérieux, du solide. Donc ça, c'est aussi ce que nous fait ressortir cette enquête, que vous pouvez aller retrouver, hein. Ça fait une vingtaine de pages, il y a un PDF à télécharger sur le site du CSA. Et puis il y a toute une partie beaucoup plus intéressante sur la sexualisation des personnages représentés, et on s'aperçoit que là encore, c'est évidemment les femmes qui sont très sexualisées. Ce qui est pas mal aussi, c'est ce chiffre que le CSA a sorti, c'est que dans 7% des publicités visionnées, donc sur les 2055, il y a des personnes nues. Et c'est pas que pour vous vendre du savon, c'est-à-dire que on peut aussi vous vendre de l'habillement, de la parfumerie, même des bagnoles et des services, et on y met des gens nues.
Et des femmes plutôt alors.
Ah, plutôt. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait bien suivi. Ce sont plutôt les femmes qui sont à poil. Et même quand on veut, a priori, te vendre un parfum pour un homme, on y met de la femme à poil. C'est-à-dire que là, quand le produit est bien défini et bien identifié sur à qui on veut le vendre, eh ben, on te met de la femme nue. C'est quand même très intéressant. Et le CSA, d'ailleurs, donne des exemples, ne cite jamais de marque, mais donne des exemples. On reconnaît tout à fait les parfums qui sont cités. Certaines sont extrêmement sexistes, tout à fait. Et puis, le CSA, dans son étude, raconte aussi que c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des parties du corps où la femme est nue. Par exemple, on peut se dire que pour un savon à usage intime, comme c'est appelé, avoir par exemple le bas du corps, vous voyez, la main cache un peu le sexe ou c'est le produit qui va cacher le sexe, ça pourrait se comprendre. Par contre, c'est bizarre quand la femme elle est nue et que c'est une crème pour le visage anti-rides. Là, on comprend pas bien. Et même le CSA, je trouve très bien parce que c'est écrit très simplement pour nous expliquer qu'il y a un truc qui est quand même pas logique. Donc voilà, c'est à lire et à retrouver en entier sur le site du CSA. Je vais pas revenir plus en avant là-dessus. Nous, on rappellera juste que la publicité, c'est un vrai problème parce que c'est une pollution, que c'est le secteur où il y a un travail des enfants. En France, les enfants peuvent travailler pour la publicité et que globalement, pour éviter le sexisme dans la publicité, nous, on a une méthode très simple. Arrêter la pub.
Voilà, c'est ça. En plus, ils vendent, enfin, ils inventent des choses. Moi, je regarde pas la télé, donc je vois pas de pub depuis 15 ans. Mais de mémoire, quand on montrait les règles des femmes, c'était bleu.
Oui.
Alors, du coup,
tu ne sais pas, c'est bleu en vrai.
Ah merde.
Ah mais non, parfois c'est violet.
Non, mais moi,
ou rose fluo, rose fuchsia.
C'est pas vrai Delphine, je sais que c'est pas bleu. Et du coup, voilà, on invente des choses, on raconte des conneries, et les gamins qui regardent ça, et qui n'ont pas eu l'occasion d'être confrontés aux règles des filles, ils imaginent au départ que c'est bleu, quoi. Enfin, c'est vraiment débile quand même. Enfin,
oui, bon, puis ouais. Ça amène un sexisme du quotidien, où effectivement, les plus jeunes peuvent aussi reproduire la bêtise du rapport entre les garçons, les filles, les hommes et les femmes.
Alors un petit mot de justice, c'est plutôt une bonne nouvelle, enfin, puisque depuis mardi, l'affaire AZF est repassée devant la justice et l'entreprise La Grande Paroisse, qui est une sous-filiale de Total et qui possédait l'usine AZF, a été condamnée. Donc AZF, vous rappelez, c'est une usine qui a explosé le 21 septembre 2001. À 10h17, donc quelques jours après le 11 septembre 2001 avec les tours du World Trade Center qui tombaient. Et donc, bien évidemment, au départ, c'est un attentat. Et plein de théories ont suivi et on s'est rendu compte que pas du tout. Donc là, c'est le quatrième procès, si ma mémoire est bonne. Donc c'est la Cour d'appel de Paris hein, qui a condamné donc cette entreprise Grande Paroisse, propriété de l'usine, à une amende de 225 000 euros. Il y a eu une condamnation aussi du directeur du site, qui s'appelle Serge Biechelin, qui est condamné à 15 mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Alors pourquoi ils sont condamnés sur une explosion? Parce qu'ils sont reconnus coupables d'homicide et de blessures involontaires. Puisque la cour d'appel a pointé des manquements à la sécurité, de l'imprudence, de la négligence, tout ce qui fait ça a pu entraîner donc cette explosion. On notera que Total est exclu des condamnations en tant que maison mère, puisque Total n'avait pas a priori de lien direct, donc ils n'ont pas été condamnés pour ça. Alors 16 années d'enquête, d'instruction, de procédure, 3 procès qui ont duré chaque fois 4 mois, à 3, j'ai dit 4 tout à l'heure, pour que la direction de Grand Paroisse soit condamnée pour cette explosion de l'usine AZF. On rappelle qu'elle produisait des engrais. Ceux qui ont été blessés, ceux qui sont morts, donc 31 décès, hein, c'est essentiellement des gens qui travaillaient dans l'entreprise, mais aussi des habitants autour. Alors il y a eu des milliers de blessés. Et il y a eu aussi plein de destructions, puisque l'explosion s'est entendue à 50 km autour de l'usine, ça a cassé des vitres partout, enfin voilà, ça a été quand même un truc phénoménal. Alors, la cause est toujours pas sûre et certaine, mais vraisemblablement, en tout cas c'est ce qui est porté par ce qu'a rendu la justice, c'est qu'un salarié qui travaillait pour une entreprise sous-traitante aurait déversé des dérivés de chlore sur un énorme tas de nitrate d'ammonium dans le hangar 221 de l'usine, et que c'est ça qui a déclenché une réaction chimique et qui a créé l'explosion. Alors, les experts ont essayé de reproduire, ils ont essayé 24 fois avant d'obtenir l'explosion. Bon, donc c'est pas totalement sûr, mais il y a quand même 99 chances sur 100 que ça soit effectivement ça la raison. Alors, on notera que le groupe pétrolier Total, propriétaire donc de Grand Maison, la boîte qui avait l'usine AZF, a pas, contrairement à certaines entreprises capitalistes, rechigné à payer et à dédommager les victimes. Ça leur a coûté 2,3 milliards d'euros. Par contre, ils ont toujours essayé d'empêcher la condamnation en justice. Alors comment ils ont fait pour Total pour empêcher la condamnation en justice? C'est qu'ils ont mis en place une commission d'enquête interne. Cette commission d'enquête interne, elle a dissimulé les faits à la justice. Elle a fait son enquête de son côté et dès qu'ils découvraient quelque chose, ils le planquaient. Du coup, la justice, elle a eu du mal à avancer avec une vraie enquête officielle de la justice. C'est pour ces différentes dissimulations de preuves que l'histoire a mis du temps à arriver jusqu'au tribunal. Et ensuite, bah, c'est la bataille d'avocats qui a fait que, enfin, le AZF, enfin, l'explosion d'usine AZF a eu un responsable, on va dire, qui est donc le directeur de l'entreprise Grande Paroisse, enfin, le directeur de l'usine et l'entreprise Grande Paroisse. Donc voilà, c'est plutôt positif. Alors on sait qu'ils ont fait une nouvelle fois appel en cassation, mais cette fois-ci, il y a peu de chances que ça marche, parce qu'il n'y a pas de raison là, à aller en cassation. Une des fois précédentes, ils s'étaient pourvus en cassation. Et là, effectivement, il y avait eu une bonne raison, puisque en fait, une des magistrates qui était chargée de juger l'affaire était aussi vice-présidente d'une association d'aide aux victimes. Donc, elle était juge et partie. Et ça, c'est pas possible en France. Donc, effectivement, à l'époque, Total avait pu faire casser, c'était en 2015, le jugement. Donc là, par contre, ils vont en cassation. Il y a aucune raison. A priori, ce coup-ci, ils sont enfin condamnés. Le Serge Biechelin, c'est 15 mois de prison avec sursis, c'est 10 000 euros d'amende, et l'entreprise a 225 000 euros d'amende. C'est pas beaucoup pour Total, mais c'est symbolique. Ils sont responsables de la mort de plein de gens parce que les procédures sont pas correctement mises en œuvre dans une entreprise très dangereuse. Ben voilà, il faut qu'ils soient condamnés pour que dans les autres entreprises du groupe, eh ben, des efforts soient faits sur la sécurité pour protéger les personnels.
Alors on va parler un petit peu d'économie pour terminer ce Canu Info. Nous allons parler de Constellation Brands, qui est un alcoolier aux États-Unis d'Amérique. Un alcoolier, je vous rappelle, c'est une entreprise qui vend des alcools. Et donc Constellation Brands vend de la bière, du vin, de la vodka par exemple. Je vais vous citer une bière et je vous la citer parce qu'en fait comme c'est pas bon, je suis pas dans la publicité. Par exemple, c'est eux qui ont la bière Corona. Vous voyez, d'accord. C'est dégueu. Pardon, excusez-moi, je donne mon propre avis. Alors Constellation Brands, mais c'est pour vous positionner un petit peu l'entreprise que vous connaissez en fait ses produits aussi en France. A décidé de prendre 9,9% du producteur de cannabis médical canadien Canopy Growth.
Ah, il se diversifie, tu veux dire?
Oui, je cite, cet investissement et cette collaboration sont conformes à la stratégie à long terme de Constellation Brands, identifier, satisfaire et devancer les changements de tendance de consommation et du marché, tout en restant focalisé sur son marché principal des boissons alcoolisées. Donc l'idée, c'est bien effectivement de se mettre à la page, puisqu'au Canada, d'ici quelques mois, va arriver en fait une loi qui devrait permettre l'usage du cannabis récréatif. Donc l'idée de Constellation Brands, c'est de vendre ensuite des boissons à base de bœuf, de wheat, de cannabis, c'est-à-dire de se positionner avant sur en fait que le marché soit ouvert, en sachant très bien que de fait il ne va pas l'entreprise ne va pas pouvoir vendre ses boissons et son cannabis aux États-Unis d'Amérique, mais voilà, c'est l'idée de se positionner. Et c'est très intéressant en fait de voir que il y a des entreprises qui sont déjà très ouvertes sur la question du cannabis et qui devancent la législation et qui se disent il faut absolument qu'on se positionne, parce que quand ça va arriver, il va falloir que notre entreprise soit la première à pouvoir proposer un produit, et il va falloir qu'on ait les bons partenariats, qu'on ait des alliés stratégiques, je les cite, alliés stratégiques, et donc on soit prêt à pouvoir vendre et à inonder le marché, parce que pendant ce temps, les autres ne se seront pas réveillés. En tout cas, c'est un petit peu le pari de Constellation Brands. C'est bon, assez marrant que ça vienne d'une entreprise des États-Unis d'Amérique.
Oui, mais aux États-Unis, il y a quand même plein d'États qui ont développé le cannabis. Du coup, ça donne des idées, parce qu'il y a oui. énormément d'argent à se faire.
Et oui, et puis en même temps, on rappellera que c'est aussi les États-Unis d'Amérique hein, qui ont lancé quand même la prohibition, qui ont lancé la guerre contre la drogue. Donc c'est marrant de voir les capitalistes des États-Unis d'Amérique se lancer dans cette démarche. En tout cas, c'est un peu raté au niveau, par exemple en France, il y en a de ce genre de multinationales qui arrivent. C'est que l'idée à un moment de pouvoir donner du travail à ceux et à celles qui pourraient dealer aujourd'hui, par exemple, et qui pourraient devenir des petits entrepreneurs plutôt doués, puisqu'ils connaîtraient un petit peu le marché et auraient déjà des clients, manque de bol, si on a une multinationale derrière, on va tuer le marché local. Hein, il faut bien être d'accord. Donc on va tuer une économie possible. Donc il va falloir peut-être un peu y réfléchir avant et proposer à des entreprises françaises de prendre aussi des participations. Oui. Bon, on en rigole, mais en même temps, voilà, c'est un pari financier qui est quand même extrêmement intéressant à suivre, je trouve.
Voilà. La loi française, pour l'instant, elle ne va pas dans le sens de l'évolution, contrairement au
Canada. Tu veux dire que pour l'instant, les dealers ne peuvent pas monter des petites entreprises. C'est bien dommage. Enfin, ils ont des petites entreprises, mais elles ne sont pas tout à fait légales, dirons-nous. Il me reste 5 minutes juste pour vous dire que l'Opéra de Lyon a été sanctionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il y avait un rapport qui avait été sorti par un média lyonnais qui montrait qu'il y avait des abus de la part de Serge Dorny, donc le directeur de l'Opéra. Il paraît que M. Serge Dorny mène grand train. Alors tous les ans, on a des salariés de l'Opéra qui, au début de saison, montent sur scène pour dire on a des soucis, il y en a marre, on veut des meilleures conditions de travail, on est maltraité et tout ça, ce qui est arrivé hein, cette année aussi en ouverture de saison. Et là, donc, on apprend quand même que Serge Dorny aime dormir dans des relais châteaux et des 5 étoiles. Monsieur ne s'embête pas. Qu'il y a par exemple eu des bouteilles de vin avec des achats pour 5 812 €, qu'il y a des frais pour 1 891 € dans des bars avant ou pendant, enfin avant ou au moment des entractes dans les spectacles, que globalement il y a de grosses dépenses, c'est-à-dire que le directeur en 2014 a dépensé 156 000 €, ça fait un 13 000 €, c'est ça, par mois, c'est beaucoup quand même hein, pour des dépenses d'à côté. Donc la région Rhône-Alpes et Monsieur Wauquiez, qui est tout content évidemment de taper sur l'Opéra de Lyon, puisqu'il aime pas la culture, de toute façon ce monsieur.
Enfin,
je sais pas bien, il aime le folklore, excusez-moi. Qui est de la culture aussi, hein, soyons bien d'accord, mais il aime que celle-ci. Donc a décidé de baisser encore une fois la subvention de la région. Donc là on est à 10% du montant de la subvention annuelle. Ça va se traduire par moins de 294 000 €, d'après les chiffres que j'ai pu récupérer. Alors l'opéra c'est un énorme budget, hein. On est à 36 millions d'euros pour l'année 2017. Il faut bien se rendre que c'est de la grosse entreprise, hein. C'est bien pour ça qu'il y a aussi des mouvements avec les salariés. C'est parce qu'on est que sur de la très grosse entreprise. La région dit que ça va pas vraiment leur manquer. Ben si, ça manque toujours, puisque c'est à peu près 7-8% du budget de l'opéra. Donc forcément que si, ça va manquer à un moment. Voilà, c'est une nouvelle affaire, en tout cas sur la ville culturelle lyonnaise. Un petit agenda vite fait ?
Oui, un petit agenda vite fait. Juste pour dire que, comme chaque mois de novembre, depuis un certain nombre d'années, il y a une série de rencontres, débats organisés qui s'appelle Novembre Libertaire. Donc cette année, ben voilà, ça revient encore et ça a commencé. Du coup, je vous en annonce deux. Le reste, je vous laisserai aller voir sur leur site internet de Novembre Libertaire. Vous aurez toutes les infos. Donc ça a commencé et samedi à 14h, à 15h plutôt, à la librairie La Griffe, il y aura pas mal de choses à La Griffe. Donc on sera le 4 novembre, il y a la projection d'un film, qui est un film de fiction, une sorte de film de teen movies, un peu thriller autour des squats, donc pour parler de la question de l'habitat et du squat, donc qui est diffusé, donc ce film, ça s'appelle À la hauteur de nos désirs, à 15h à la librairie La Griffe. Et le même jour, bah, ils font la fête du lancement de Novembre Libertaire 2017. Ça aura lieu au bar de l'autre côté du pont. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'écouter de la musique, de manger, de boire et si vous voulez, d'acheter la très belle affiche sérigraphiée du Novembre Libertaire qui est comme tous les ans très très belle. Cette année, c'est une sorte de dracard anarchiste qui vient apporter la bonne parole.
Oui, moi je voudrais vous envoyer voir à cette séance unique dans les rendez-vous du documentaire au cinéma Lumière, dont je n'ai pas noté lequel c'était entre les trois, et je suis bien embêtée et je vais pas vous le dire parce que j'ai comme un tout petit doute. En tout cas, vous irez chercher rendez-vous du documentaire, donc c'est aussi dans un des cinémas Lumière Je me souviens jamais si c'est à la fourmi, je vais dire une bêtise. En tout cas, il faut aller voir ce film qui est une reprise de Frédéric Wiseman qui s'appelle Titty Cut Follies, que vous avez jamais vu en plus sur grand écran. Je pense que ça vaut le coup. C'est un film qui a été tourné en 1967 par ce documentariste américain, qui a été interdit longtemps par l'État du Massachusetts parce que en fait, il montre de la maltraitance, des horreurs à Bridgewater dans le Massachusetts. Donc, il va dans un hôpital psychiatrique. On y voit des choses absolument horribles et pendant très longtemps, la raison officielle de l'interdiction, c'était que le film violait l'intimité et la dignité des patients, mais en vérité, c'est qu'on y voyait surtout des choses très très moches sur la gestion des patients en interne. Et il a fallu attendre 1991, excusez-moi, pour que le film soit autorisé. Il faut absolument aller voir ça. C'est mardi 7 novembre à 18h45.
Et c'est aux Lumières Bellecour.
Lumières Bellecour, merci beaucoup.
C'est l'animateur sympathique de l'émission suivante qui nous a donné l'info.
Eh ben c'est super, merci, parce que c'est vraiment, il faut aller voir ce film.
C'est la coopération canusienne.
Ouais.
Ouais. Il est 20h, alors l'animateur, vous ne l'entendrez pas, puisqu'il est juste venu rediffuser l'émission contre les prisons de Radio Do qui s'appelle Papillon.
Et puis,
ciao. À bientôt.
Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h pour le Canu Info du jeudi et demain pour le Canu Info de vendredi.
Et Social Workers qui présente une soirée concert avec Miles Oliver, Throw Me Off the Bridge et Orbel. C'est du concert plutôt ambiance folk, dark folk, indie folk. C'est plutôt bien fichu. Ça nous vient pour Orbel de Greenland, ça nous vient de Laval pour Throw Me Off the Bridge et ça nous vient de